Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir vos livres dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14, les 11 premiers versets. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux scribes et les sacrificateurs cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort, car ils disaient « pas en pleine fête », afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Jusqu'ici, la lecture du texte de la prédication de ce matin.
Vous sentez les fleurs?
Eh bien, sans odorat,
nous ne sentons rien, aucun parfum.
Et sans le Saint-Esprit, nous ne comprenons rien à l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous comptons sur son œuvre encore aujourd'hui, comme chaque fois. Or, comme le disait Loïc, nous avons commencé un périple dans l'Évangile selon Marc, et nous continuons aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous résumer les 13 premiers chapitres, donc je vous encourage à les relire si vous ne les avez pas encore lus, ou même si vous les avez déjà lus, parfois de les relire en ayant entendu les prédications nous permet d'approfondir encore ces textes. Et nous arrivons aujourd'hui dans une dernière partie de cet Évangile. C'est une partie où, en fait, Marc, qui retransmet les paroles particulièrement que Pierre lui a données, nous parle des souffrances de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Aujourd'hui, nous sommes à la préparation, on pourrait dire, hein, et nous voyons que sa mort est maintenant décidée. Les souverains sacrificateurs, les scribes, ils ont décidé que Jésus doit mourir. Ça, c'est plus une question. La question, c'est quand? Ça, on le verra dans quelques instants. Et en fait, on voit qu'un traître se met maintenant au service de ceux qui veulent tuer Jésus. Et Jésus lui-même parle de sa sépulture. On entre vraiment dans cette partie, dans ce texte. Le texte de Marc 14, de 1 à 11, que nous avons entendu tout à l'heure, est un texte de grand contraste. Il y a vraiment des contrastes entre les personnes qui sont dans ce texte, ce qu'ils font, ce qui s'y passe. Et en fait, notre premier point sera simplement des contrastes saisissants. Nous allons voir plusieurs contrastes donc dans ce texte. 10. On verra 10 contrastes différents ensemble. Ensuite, nous allons réfléchir à l'action étonnante de cette femme qui vient avec son parfum. Ça sera notre deuxième point. Une action étonnante qui montre la valeur donnée à Jésus. Et nous terminerons par nous arrêter sur la manière dont Jésus réagit, en fait, à cette situation. Et j'intitule ce point « Jésus défend ceux pour qui il a de la valeur ». Nous allons donc commencer par cette partie contrastée, où nous voyons des contrastes. Un contraste, c'est quand on dit quelque chose, et puis ensuite, il y a une autre chose qui est parfois inversée. Donc ça se contraste. C'est comme si je vous dis noir, hein, les enfants, et blanc. Ça, c'est un contraste, on est d'accord. Okay? Et dans ce texte, on a aussi quelques éléments de contraste. Mais Avant de vous parler des contrastes, je vais relire le texte. Et vous allez, pendant que je relis le texte, déjà réfléchir à quel contraste nous voyons dans ce texte, ou à quel contraste cela vous fait penser avec le reste de l'évangile. Alors, Marc 14, au verset 1. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Car ils disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre ou pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Petite parenthèse, juste pour commencer, au lieu de parler des principaux sacrificateurs et des scribes, je dirais les chefs juifs. Mais c'est les mêmes. Voilà, c'est juste pour un peu raccourcir. Donc, nous sommes à la Pâque. La Pâque rappelle que des vies ont été épargnées. En Égypte, les premiers-nés ont été épargnés. On se rappelle que Dieu a épargné ses premiers-nés. Et là, on a un contraste saisissant déjà ici. Pâques, qui est le moment des vies épargnées, et les chefs juifs veulent mettre Jésus à mort. Contraste saisissant. La vie, quelque part, qui est fêtée, et à ce moment-là, eh bien, il y a cette décision de mettre Jésus à mort. En fait, c'est un encouragement pour nous à se concentrer sur la grâce et la vie. C'est par opposition. Les chefs juifs, comme d'ailleurs ceux qui expriment leur indignation dans le texte, agissent de manière cachée. Ils cherchent à agir par ruse. Alors que Jésus parle ouvertement et agit au grand jour. Cela nous encourage, en fait, à ne pas jouer aux cachotteries. Et là, je fais une petite parenthèse. Une petite parenthèse pour nous dire à tous ici que toute faute que vous cachez devient un outil puissant dans la main de Satan pour vous enchaîner. Vivons à la lumière, sans rien cacher. Ça ne veut pas dire qu'on va étaler tout ce que nous vivons, tout ce que nous disons, tout ce que nous ressentons partout à tout le monde. Ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est que nous n'ayons pas de secret caché que personne ne sait. De péché que nous pratiquons et que nous cachons dans l'ombre. C'est le meilleur moyen pour être enchaîné par Satan. Donc si vous vivez des péchés cachés, demandez à quelqu'un de parler avec cette personne, une personne dans la foi, dire « j'ai besoin de confesser un péché » et ensemble aller vers le Seigneur. C'est vraiment important. On voit ici les chefs religieux, ils font les choses cachées. Jésus fait toujours les choses ouvertement. Il agit au grand jour. Troisième contraste, les Juifs ne veulent pas tuer Jésus pendant la fête. Mais Dieu a un autre plan. et il va donner son fils pour le sacrifice le jour de la Pâque, alors que Jérusalem est le plus fréquenté. Dieu conduit souverainement les événements, personne ne peut l'en empêcher. Quatrième contraste, les chefs juifs sont hostiles, Judas est fourbe, alors que la femme qui amène le parfum manifeste le don et la bonté. Le contraste, il est énorme ici, ils sont dans le même texte. Un autre contraste, Jésus va dans la maison d'un lépreux. Je vous avais vu, Simon le lépreux. Alors sûrement qu'il est guéri, sinon il ne serait pas arrivé là. Mais le fait que l'on parle de lèpre nous fait penser à l'impureté. Alors que la femme qui vient amène un parfum de nard pur. Notion de pureté, impureté qui est ici. Notre contraste, les disciples sont indignés. C'est un terme très fort ici qui est dans le texte. Ils sont indignés de ce que fait cette femme. Et ça va plus loin. Ils sont même irrités contre elle. Ça ne devait pas être facile pour elle. On en parlait tout à l'heure. Les disciples sont indignés et irrités face à l'action de la femme. Le contraste. Alors que Jésus est reconnaissant et honore le geste de cette femme. C'est saisissant. L'indignation, l'irritation. Alors que pour Jésus, c'est la reconnaissance et l'honneur, pour le même geste. Un autre encore. Ceux qui sont dans la maison de Simon avec Jésus sont insensibles et ne cherchent pas à comprendre l'action de la femme. En fait, ils la jugent. Elle fait quelque chose, c'est bizarre, c'est pas bien. Il n'y a même pas de réflexion pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors que Jésus est sensible à son action. Et il va même jusqu'à donner la signification de ce qu'elle fait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Cela, en fait, devrait nous pousser à être prudents lorsque nous sommes face à une action qui nous étonne. Soyons prudents face à une action qui nous étonne. Posons plus de questions que de jugements. Posons plus de questions que de jugements. Un autre contraste, la femme prépare la sépulture de Jésus, donc c'est un respect en vue de sa mort, alors que Judas prépare son meurtre. Saisissant la différence. Un autre contexte, les pauvres seront toujours là alors que Jésus ne sera pas toujours là. Et cette femme a mis la bonne priorité. Et dernier contraste qui n'est pas des moindres et qui nous conduira à la suite, cette femme a fait un cadeau qui manifeste qu'elle accorde une très grande valeur à Jésus. Elle a fait un cadeau qui manifeste qu'elle accorde une très grande valeur à Jésus, ce qui contraste avec Judas pour qui Jésus n'a que peu de valeur, puisqu'il le livre pour un peu d'argent. 10 fois moins. Peut-être même plus, parce qu'il est parlé de 300 deniers pour le vase d'albâtre, pour le parfum, et puis il est parlé de 30 pièces. Mais voilà, on a déjà 10 fois moins dans le nombre qui nous est présenté, donc c'est encore moins en fait. Donc là, on voit que l'un donne de la valeur à Jésus par ce qu'il lui donne, et l'autre, en fait, méprise Jésus en le vendant pour le prix, en fait, d'un esclave. C'était le prix d'un esclave si vous reprenez les textes dans Exode. Donc ce contraste nous montre que nos actions manifestent ce que nous considérons comme ayant de la valeur. En fait, c'est nos actions qui vont manifester ce que l'on considère comme la valeur. Judas, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Il pouvait même prouver qu'il avait vécu avec Jésus pendant 3 ans, crier de toutes ses forces que Jésus avait de la valeur pour lui. Son action nous indique ce qu'il y avait dans son cœur. Alors, on pourrait continuer encore avec beaucoup de contrastes, mais je pense qu'on commence à saisir, j'espère, ces contrastes qui sont dans ce texte ici. Et d'ailleurs, cette femme amène ce parfum est prise en sandwich dans ce texte. Vous voyez les versets 1 à 2 et puis les versets 10 et 11. Eh bien, c'est ceux qui veulent la mort de Jésus. Puis entre deux, on a cette situation de cette femme qui amène ce parfum. Donc souvent, quand on parle de quelque chose et de son contraire, c'est pour nous aider à mieux saisir, mieux comprendre. Et on va s'intéresser maintenant à l'action de cette femme qui accorde une grande valeur à Jésus. Alors, on va relire les versets 3 à 5. Donc, si vous prenez vos Bibles, dans Marc 14, les versets 3 à 5. Ah, je vous laisse chercher comme ça, vous pouvez suivre. Marc 14 et les versets 3 à 5. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. Il existe dans la Bible un autre texte qui parle d'une femme qui a aussi mis du parfum sur Jésus. C'est dans Matthieu 26. C'est la même histoire en fait. Simplement, c'est un autre témoin qui en parle, avec quelques petites nuances. Et il y a un autre endroit, dans Luc 7, aussi une dame qui met du parfum sur les pieds de Jésus. Et ça, c'est aussi chez un Simon d'ailleurs. Des Simons, il y en a plein dans le Nouveau Testament, vous avez plein de Simons. Alors c'était Simon le lépreux, et puis dans Luc 7, c'est chez Simon le pharisien. Et là, en fait, on est dans une situation différente. Ce n'est pas la même femme qui a fait ça, dans Luc 7. Et ça signifie que ça s'est passé au moins deux fois. Et ensuite, il y a Jean 12, qui parle aussi d'une femme qui a mis du parfum sur Jésus. Et là, elle est nommée. C'est Marie, la sœur de Lazare, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, qui a versé du parfum, là il est dit dans Jean, sur les pieds de Jésus le jour avant son entrée triomphale à Jérusalem. Donc ici dans Marc, si on prend la chronologie, on est mardi, alors que Jean il disait que c'était samedi que ça s'est passé. Est-ce que c'est la même situation et simplement Marc le met ici parce que le thème que Jésus amène de son corps qui est préparé pour la sépulture est en lien avec ce qui se passe ici? Et donc Marc, il n'a pas été chronologique pour mettre cette situation-là. Ou est-ce que c'est deux situations différentes qui se sont passées à peu d'intervalle? En méditant ce texte et en l'étudiant, je ne peux pas trancher. Et je pense qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de trancher, en fait, cette situation-là. Par contre, nous pouvons apprendre quelque chose. Et que ce soit deux choses différentes ou bien la même situation, eh bien, on peut retirer plusieurs éléments. Un premier élément, c'est que nous avons ici une femme courageuse, une femme, on pourrait dire, audacieuse, qui vient rendre visible à Jésus alors qu'il est en train de manger chez un homme qui a probablement été guéri par Jésus, hein, et qui fait un temps de festin où il se réjouit que Jésus soit là, et il est content de pouvoir lui dire merci. C'est donc un repas de gratitude. Et la femme arrive avec un vase d'albâtre typique, avec une petite ouverture pour faire sortir des gouttes de parfum. On pouvait faire sortir des gouttes de parfum, comme ça on faisait une petite goutte par-ci, par-là, hein, qui permettait d'avoir de bonnes odeurs. Mais cette dame ne verse pas quelques gouttes, en fait, sur Jésus. Elle brise le vase. Hein, c'est écrit dans le texte, et ça Marc le souligne très clairement ici, elle le brise, et donc en fait on ne pourra plus, elle veut tout donner à Jésus-Christ. Il n'y a pas juste deux, trois gouttes, elle ne donne pas juste deux, trois gouttes à Jésus, elle veut tout lui donner. Et c'est vrai que ça dans un sens c'est déjà un petit peu un clin d'œil au salut ici, hein, cette notion de, en quelque sorte, de notre nature qu'on comprend qui est pécheresse, qui doit être brisée ou changée, hein, complètement. Avec toutes les gouttes, avec tout ce qui va avec. Et en quelque part, mise sur Jésus qui va sur la croix les porter à notre place. Cette femme amène un parfum de nard pur de grand prix. Et selon le prix indiqué, les 300 deniers, c'est en fait le salaire annuel d'un ouvrier. Si on fait un petit calcul, alors voilà, je donne un calcul comme ça d'un salaire d'ouvrier, ça fait 40 et 50 000 francs. Vous voyez, quelqu'un qui achète quelque chose, un parfum, à 50 000 francs, ça vous parle, 50 000 francs, et puis il casse et il le met sur la tête de Jésus. Vous auriez réagi comment? Je pense que nous n'aurions pas réagi très différemment de ceux qui étaient présents. Nous aurions du moins été très surpris, interrogateurs. Mais je pense qu'on aurait été plus que cela. comme ceux qui étaient présents. À quoi ça sert, franchement? 50 000 balles. On peut faire d'autres choses avec ça. Il y a des besoins, il y a des missions, il y a etc. Mais cette femme a fait une action de laquelle elle n'allait rien retirer en plus. C'est même pas un investissement, puis elle reçoit 60 000 après. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un don où elle ne reçoit... Alors, vous allez me dire, elle reçoit un peu l'odeur en retour. C'est vrai, il y a l'odeur du parfum. Mais elle ne le fait pas pour recevoir quelque chose en retour. Cette femme a fait une action sans rien attendre en retour. C'était sa manière d'honorer Jésus. C'était sa manière d'honorer Jésus, de lui manifester son attachement, de souligner combien il était précieux pour elle. C'était sa manière de l'honorer, de lui manifester son attachement, de souligner combien il était précieux pour elle. Et il est probable qu'elle a donné ce qui était le plus précieux pour elle. Ce qui nous fait penser à ce qui s'est passé 2 jours plus tôt. Vous vous rappelez ce qui s'est passé 2 jours plus tôt? Dans Marc, hein, du temps de Jésus, évidemment, pas penser à ce qui s'est passé avant-hier. Mais dans Marc. Eh bien, 2 jours plus tôt, Jésus était au temple avec ses disciples et il voyait une pauvre veuve mettre 2 pièces d'argent dans le tronc. Une dame, de nouveau, dans une situation où les disciples pouvaient dire, bon, elle met 2 francs 50, c'était 2 francs 50 dans le tronc, franchement, c'est pas grand-chose. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? En vérité, la même chose qu'ici d'ailleurs. Et il a souligné en fait que cette veuve avait mis beaucoup plus que les autres. Et en fait, cette dame qui vient de donner ses 50 000 francs et cette pauvre veuve à 2 francs 50, Jésus quelque part les met exactement dans la même situation. Il démontre en fait que les deux ont manifesté une confiance en Dieu une fois en Dieu. Mais pourquoi y a-t-il autant d'indignation? Elle a fait juste quand même. Elle est allée vers Jésus, elle a pris un parfum de grand prix, comme les mages qui avaient amené de la myrrhe à Jésus. Hein? Elle n'a pas seulement mis quelques gouttes, mais tout le parfum sur la tête de Jésus. D'ailleurs, les visiteurs, en principe, si c'était un visiteur de Marc qui venait à la maison, vous savez ce qui se faisait? Ça, c'est Jésus qui le dit dans Luc 7, c'est pour ça que je le sais, je n'y étais pas, mais il le dit là. Il dit, ben, quand quelqu'un de Marc arrivait, on l'oignait d'huile, on mettait de l'huile sur sa tête. Il n'y a pas besoin de le faire, hein, les enfants. On peut le faire, mais c'est pas comme ça qu'on fait aujourd'hui. Quand on aime bien quelqu'un, on ne va pas y mettre de l'huile sur la tête quand il arrive chez nous. Mais là, il y avait une coutume qui le faisait. Donc, cette notion d'oindre sur la tête, ce n'était pas quelque chose d'inhabituel. Elle a fait juste, elle n'a pas fait quelque chose qui était contre même les us et coutumes. Mais alors, qu'a-t-elle fait de faux que ces gens réagissent, soient indignés, même irrités contre cette femme? Elle n'a rien fait de mal, en fait. Rien du tout. Pourtant, elle est incomprise. Et elle est même prise à partie par des paroles blessantes. En tout cas, elle a dû entendre ces paroles qui disaient « on aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres ». Comment cette femme reçoit-elle tout cela? Ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile. Elle est venue avec un grand cœur vers Jésus, et si grand pour son Seigneur, et voilà que ceux qui le suivent réagissent de cette manière. Ça me fait penser à l'histoire où les disciples ont retenu les enfants, et les enfants qui voulaient venir Jésus, puis disent « Non, laissez-le tranquille. » Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il dit « Mais non, laissez-les venir à moi. » Et il leur a même donné un enseignement. Ici, Jésus va aussi réagir dans cette situation-là. Mais avant de réfléchir à la réponse de Jésus, juste une ou deux applications sur cette partie ici que nous venons de voir. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette action étonnante de cette femme? Je vous en propose 2, et vous pouvez, après le culte, quand vous discutez de ce qu'on a vu ce matin, en proposer d'autres, hein, les uns aux autres. Mais j'en propose 2. Première application, c'est que rien n'est trop précieux pour Jésus. Rien n'est trop précieux pour Jésus. Il nous a rachetés. Il a donné sa vie pour nous. Rien de ce que nous pourrions lui donner n'est trop cher, en fait. Ça, c'est une première application qu'on peut tirer de ce texte. C'est qu'en fait, rien n'est trop précieux pour Jésus. Et deuxième élément, malheureusement souvent, lorsque nous donnons de tout cœur à Christ, quelque chose qui sort de l'ordinaire, eh bien, c'est mal perçu, c'est mal compris et très rapidement jugé. Donc cela nous pousse à deux choses, à nous y préparer, c'est-à-dire, ben, c'est pas grave si c'est pas compris, parce que c'est ce que je donne à Dieu et pas aux autres. Et deuxièmement, de nous aider à arrêter de juger et de plutôt demander les motivations. Si ces personnes qui avaient observé avaient demandé les motivations à cette femme et qu'elle avait exprimé son amour pour Jésus-Christ, etc., je pense qu'il y aurait déjà des éléments qui auraient changé dans leur attitude. Peut-être pas tout, mais déjà des éléments. Eh bien, que le Seigneur nous donne cette grâce d'avoir cette attitude. Tout le monde ne manifeste pas son adoration à Dieu de la même manière. Même si ça me paraît bizarre, même si ça me paraît étonnant, j'ai pas à juger l'autre. Et ça, c'est un élément important dans ce cheminement. Et aussi, même si ce que je fais paraît parfois étonnant, je n'ai pas à changer ma façon de faire si mon cœur est dans une bonne attitude, évidemment. Elle ne l'a pas fait pour montrer aux gens ce qu'elle vivait, c'était quelque chose qu'elle a fait de cœur. Et ça s'est passé à ce moment-là, parce que c'est là qu'elle était. Bon, ceux qui étaient là n'ont rien demandé, ils ont jugé. C'est alors que Jésus est intervenu. On arrive au dernier point. C'est celui qui me plaît le plus, je vous le dis tout de suite ce matin, donc c'est bien. On arrive à un bon endroit. Hein? Jésus défend ceux pour qui il a de la valeur. Regardez le verset 6 à 9. Et là, vous essayez déjà de trouver, quand je vous lis le texte, je vais ressortir 5 paroles que Jésus dit à cette dame qui ont dû beaucoup l'encourager. 5 paroles. Alors, je vous lis. Marc 14, verset 6. Mais Jésus dit... « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Jésus ne laisse pas cette femme dans l'embarras. Tant que Jésus ne disait rien et que les autres réagissaient, ben là, ça devait être un temps un peu, voilà, pas facile, disons. Mais Jésus, il parle, il agit, il la laisse pas dans son embarras face à ceux qui sont indignés et irrités. Il va prendre sa défense. Et ça, c'est quelque chose de rassurant pour nous, de réconfortant, d'encourageant. Il va prendre sa défense. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait encore aujourd'hui. Jésus va toujours prendre la défense de celui qui met de la valeur en lui. C'est pas toujours le même moment, c'est vrai, des fois c'est un peu plus tard que ce qu'on aimerait peut-être, mais Jésus va toujours prendre la défense. Job disait d'ailleurs, il a attendu un moment, mais il le disait depuis le chapitre 19, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Il le savait, il avait cette confiance. Et ici, Jésus se lève pour défendre cette femme. Alors, 5 choses encourageantes, rassurantes et stimulantes pour elle. La première, sa première parole est une protection, comme s'il mettait ses détracteurs devant lui un bouclier face à cette femme. Et vous savez ce qu'il dit simplement? Laissez-la. C'est simple. Mais pour elle, ça devait être juste fantastique. Dans cette situation de pression quelque part, lui, il arrive et dit, laissez-la. Si vous êtes dans une situation où on est en train de vous dire des choses difficiles, de vous crier dessus, peut-être à l'école où tu as les copains qui sont en train... Puis il y a quelqu'un qui arrive qui dit, laissez-le tranquille. C'est le soulagement. Eh bien, c'est ce que Jésus fait ici. Elle était venue pour lui. Elle était venue avec un cœur débordant d'amour pour lui, d'admiration, de respect, de dévotion. Elle a été dans une situation difficile, sûrement blessée par les disciples, par ceux qui auraient dû l'encourager, se réjouir de son action coûteuse en l'honneur du Maître. Mais Jésus dit ici, laissez-la. Je viens la protéger. Je me mets entre ceux qui sont indignés et irrités et cette femme qui a compris avant tous ma situation et ma mort imminente. Moi, j'aime cette parole. Laissez-la. Ou laissez-le. Que tout enfant de Dieu entend lorsqu'il est acculé par le diable qui voudrait accuser, détruire, faire jeter en enfer pour toutes les fautes commises. Jésus dira alors, laissez-le. Laissez-la. J'ai payé pour elle. J'ai payé pour lui. Laissez-la. Laissez-le. Et je prie que chacun ici présent ce matin puisse un jour entendre cette expression de Jésus et dire, laissez-la. Laissez-le. J'ai payé pour lui, pour elle. La deuxième parole de Jésus est comme une lame acérée. Donc, acérée, c'est vrai que les enfants se disent quoi, acérée? Se dire c'est très tranchant, ça coupe. Voilà. C'est comme une lame qui coupe face aux critiqueurs et qui dit, pourquoi lui faites-vous de la peine? Qu'est-ce qu'ils auraient pu répondre? Qu'est-ce qui vous pousse à critiquer une personne qui met tout son cœur à servir Jésus-Christ? Y a-t-il une raison valable pour s'indigner face à quelqu'un qui donne quelque chose de grande valeur à Jésus? Y a-t-il une raison valable? Pourquoi s'irriter lorsqu'une personne s'engage de tout son cœur avec toutes ses capacités dans un service pour Jésus-Christ? En fait, c'est un avertissement pour chacun de nous qui jugeons si facilement. Si le monde ou l'ennemi de Dieu s'indigne et s'irrite face à quelqu'un qui s'engage pour Dieu ou qui fait un grand cadeau à Christ, mais c'est normal. C'est vrai, le Satan et le monde, il va se réjouir de ça. Mais un croyant, un membre du royaume de Dieu, un serviteur du roi des rois, qui s'indigne d'une personne qui donne quelque chose d'une grande valeur à son maître, c'est quand même étonnant. Cela signifierait-il que ce critiqueur n'accorde pas autant de valeur à son seigneur que l'autre? Alors que cela nous pousse en fait à être des soutiens pour ceux qui sont même prêts à faire des extravagances pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. La seule chose à comprendre ou qu'on peut demander justement, c'est de pouvoir discerner si c'est en l'honneur de Dieu ou non. La façon de vivre est ensuite propre à chacun. On ne vit pas tous de la même manière. Donc la deuxième parole, c'était « Pourquoi lui faites-vous de la peine ?» Et en fait, je pense qu'aucune personne qui était présente ici avec Jésus aurait pu donner une réponse satisfaisante à cette question. Troisième parole de Jésus, c'est une affirmation extraordinaire. C'est une éloge que nous devrions quelque part rechercher, qui devrait nous motiver hautement. Une éloge qui nous motive hautement. Et il dit ceci, « Elle a fait une bonne action à mon égard. » Ça, c'est quelque chose qui devrait être fantastique pour nous. Faire une bonne action à l'égard de Christ, de Jésus-Christ. De l'entendre dire que nous avons fait une bonne action pour lui, c'est quelque chose qui devrait nous réjouir, tellement nous l'aimons. Malgré ce que certains pouvaient penser, elle n'a pas agi pour être vue ou être mise en avant. Et la parole de Jésus nous permet de le comprendre ici. Qu'elle a agi avec un cœur entier pour lui, rempli d'amour, de respect, cherchant l'honneur de son Seigneur. En fait, c'est une motivation que nous pouvons chacun avoir de vivre de bonnes actions à l'égard de Jésus-Christ. C'est notre but, notre point focal, notre direction pour vivre et être dans la paix et la joie. Une quatrième parole. C'est un témoignage apaisant. J'aime beaucoup ce que Jésus dit ici. Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Malheureusement, cette phrase dans notre langage courant est devenue parfois un peu péjorative. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas cette partie. Jésus le dit avec admiration, en fait. Il souligne son effort, son intégrité. En fait, ce n'est pas Ananias et Saphira ici. Nous, on a tout donné! Alors qu'ils en ont gardé une partie. En fait, la femme ici, elle n'a rien dit. Elle a donné. Elle n'a pas souligné son action. Elle n'a pas fait crier des gens, regardez ce que je fais. Non, elle a donné simplement, totalement dirigée vers Christ. C'est apaisant que même si nous avons une situation modeste dans le monde, ou même si nous nous sentons parfois inutiles dans ce monde, ça vous est déjà arrivé de vous sentir inutile? De savoir dans ces moments-là que lorsque nous mettons toute notre attention, tout ce que nous avons, les deux pièces de la veuve, le nard pur de cette femme, si nous le mettons à Christ, Jésus dira, elle a fait tout ce qu'elle a pu, tout ce qu'il a pu. Il a tout fait, il a tout donné. Cela fait penser à la parabole des talents, lorsque le maître dit à son serviteur fidèle, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est une parole apaisante que Jésus dit ici. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Il n'a pas dit, mais tu aurais pu faire un peu plus. Non, non. Tout ce qu'elle a pu. Ça nous rassure. Quand vous avez donné tout ce que vous avez pu, Dieu ne va pas dire, ben, tu aurais pu donner un peu plus. Mais non. Elle dit, tu es dans cette circonstance-là, tu es dans cette situation-là, peut-être une situation de maladie, de difficulté. Fais ce que tu peux. Et Jésus va dire, il a fait ce qu'elle a pu avec admiration. Cinquième parole et dernière parole, une parole qui est engageante. C'est cette parole extraordinaire qui est dit « Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on racontera ce qu'elle a fait. » On prêche la bonne nouvelle ici, on parle d'elle. Voilà, ça fait partie, mais c'est lié. Hein? Celui qui était blâmé ici n'a aucune honte. Celle qui était blâmée ici n'a aucune honte de son action, parce qu'elle est approuvée par le maître, qui l'a reçue à sa juste valeur et qui a pris plaisir en lui. C'est aussi responsabilisant. Est-ce que ça nous dérangerait que ce que nous faisons soit raconté? Est-ce que cela soulignerait un aspect de la bonne nouvelle de l'Évangile? Ou non? Parce qu'ici, en fait, ça souligne un aspect de l'Évangile, ce qu'elle a fait. Ici, nous voyons une femme qui ne compte pas lorsqu'il s'agit d'honorer Jésus. Rien n'est trop précieux pour celui qui donne sa vie pour libérer de son péché. Jésus défend tellement bien cette femme qu'elle est devenue pour nous un exemple, une inspiration à ne pas compter lorsque nous donnons à Christ, à le vivre de tout notre cœur, même face aux indignés, aux irrités, car Jésus défendra toujours ceux qui l'honorent. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera lors de son retour glorieux, mais toujours nous serons défendus. Donc ce matin, nous avons vu des contrastes, des gens qui veulent tuer Jésus. On a vu une femme qui vient tout donner à Jésus. On voit des gens qui critiquent son œuvre. Et on voit Jésus qui la défend. Et je ne sais pas ce que vous allez retenir, mais moi j'aime bien cette petite expression. Laissez-la. Nous allons prier. Éternel, nous sommes heureux de lire ta parole. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont dures quand on voit que les souverains sacrificateurs et les scribes sont déterminés à tuer Jésus. Traître parmi les disciples qui est prêt à vendre Jésus pour quelques pièces. Mais Seigneur, cela fait partie de ce monde dans la chute dans laquelle nous vivons et nous voyons encore des choses autour de nous qui sont parfois lourdes et difficiles et qui nous font frémir. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est cette grâce justement que tu manifestes dans ces situations tout à fait étonnantes parfois, comme cette femme qui arrive et qui manifeste une abnégation, un don qui dépasse notre imagination. Quelqu'un qui viendrait, si tu étais là, te oindre pour 50 000 francs, mais ça nous paraîtrait tout à fait démesuré, alors que en fait la valeur que tu as pour nous est bien plus grande. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à le saisir encore plus. Et que nous puissions nous réjouir que tu prends plaisir, en fait,
lorsque nous te donnons ce qui nous est cher. Et tu vas même jusqu'à nous défendre. Tu es prêt à dire « Laissez-le, laisse-le, laisse-la ». Tu es prêt à le faire devant d'ailleurs celui qui veut que nous soyons condamnés. Satan qui dit « Il a péché, il doit aller en enfer ». Et toi, tu réponds, lorsque nous faisons partie de ton peuple, lorsque nous sommes venus à toi, en te demandant pardon pour nos péchés, en croyant que Jésus a payé pour nous, tu réponds, mais laisse-le, laisse-la, j'ai payé pour lui, ne le touche pas, il ne sera pas jugé, j'ai été jugé pour lui. Ô Seigneur, j'aimerais te prier que ce soit le cas pour chacun ici présent, chacun qui entend ta voix, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.